Je me réjouis de vous retrouver après une longue période de vacances. Alors, pour introduire ce message, je vais vous parler d'une discipline sportive un peu particulière, le triathlon Ironman. Alors, ça n'a rien à voir avec un super-héros en armure rouge et or. L'Ironman est une discipline de triathlon extrême qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et, pour finir en douceur, un marathon de 42 km. Ça vous parle? Parce qu'on avait l'intention de monter une équipe au niveau de l'église. Non? Bon. Je prends les noms. En août 2015, Ludovic Chornion, 44 ans, également appelé Ludo le Fou, a enchaîné 41 Ironman en 41 jours, soit 155 km de nage, 7380 km de vélo, 1730 km de course à pied. Lorsqu'on lit le récit de cet exploit, dans un premier temps, on pense que ce n'est pas possible, que c'est au-delà de ce qu'un homme, même entraîné, est capable de faire. Et pourtant, son record, il est bien homologué et sans tricherie de sa part. Alors, si un simple homme est capable de faire ça, imaginez ce qu'il est possible à Dieu. Et c'est précisément l'histoire d'une épreuve qui s'est imposée à Christ que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je lirai Luc 4, versets 1 à 13, je lirai dans la version second 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 40 jours sans manger, c'est une épreuve terrible. Et cette épreuve survient juste après son baptême, alors que l'Esprit est descendu sur lui. Alors ce texte m'a même posé une question. Lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle phase dans notre vie, comment nous préparer aux épreuves, aux tentations qui nous attendent? Pour répondre à cette question, je souhaite d'abord revenir sur ce texte et aux événements qui y sont décrits pour aller plus en profondeur sur comprendre les implications de ce texte et enfin en tirer une expérience pour notre vie de chrétien. Alors revenons au texte. Jésus vient juste de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Dieu le Père l'a désigné comme son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint est descendu sur lui. Mais juste après, pour inaugurer son ministère, Jésus va devoir affronter sa première grande épreuve en tant qu'homme. Et c'est bien par l'Esprit Saint que Jésus est mené à cette épreuve. Un mois d'isolement dans le désert sans nourriture. L'épreuve est terrible, elle est dangereuse même. Mais c'est par cette épreuve que Jésus va affronter, pour la première fois en tant qu'homme, son ennemi absolu, le diable. Pourquoi jeûner? Le jeûne, c'est-à-dire la privation de nourriture pendant un temps plus ou moins long, est une pratique biblique très ancienne. On pouvait jeûner pour diverses occasions, pour un deuil, par exemple, le roi David, pour faire acte de pénitence ou pour demander une intervention favorable de Dieu. L'idée n'est pas de chercher à impressionner Dieu par une quelconque épreuve de force, mais le jeûne associé à la prière a pour objectif de mieux se centrer sur l'essentiel, de se focaliser sur sa relation avec Dieu, montrer la prédominance de l'esprit sur la chair. C'est une pratique de moins en moins répandue, mais certaines églises la pratiquent encore. Moi-même, je l'ai pratiqué, ma sœur peut en témoigner, Patricia, on a pu jeûner ensemble à Stan, par exemple. Mais elle est utilisée généralement pour accompagner des occasions particulières, accompagner un projet ou surmonter une crise. Jésus, dans la chaleur, la solitude, est tiraillé par la faim et les symptômes de la sous-alimentation, est en position de faiblesse. Et c'est bien à ce moment-là que l'ennemi attaque. Jésus, pour le diable, c'est la proie ultime. Il est Dieu fait homme sur terre. En tant que Messie, il est l'héritier de Dieu. En tant qu'homme, il est l'héritier d'Adam, la plus grande victoire du diable. Et il entend bien, avec Jésus, faire le doublé. Quand j'étais tout petit, il y avait un bassin chez ma grand-mère, où il y avait des poissons. Je me souviens encore très bien de l'histoire qu'elle me racontait. Il y avait, selon elle, un monstre tapis au fond du bassin. Alors, vous imaginez quel était son objectif. Alors, je lui ai jamais dit, mais c'était pas très efficace, parce que je me souviens très bien que quand j'étais seul, je m'approchais régulièrement du bassin dans l'espoir d'apercevoir ce monstre. Mais le diable n'est pas un monstre de pacotille. Il n'est pas une histoire qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Le diable n'est pas un concept inventé par l'homme pour symboliser ses mauvais penchants. Le diable est une personne réelle dont on mesure les agissements dans le livre de Job. Il est une créature de Dieu déchue dont le but est de systématiquement contrecarrer ses plans. C'est une créature rusée dont l'arme favorite est le piège. C'est donc à ce moment-là qu'il choisit d'attaquer. En combattant rusé, il va tenter d'attaquer sur les points faibles. Pour Adam, c'était Ève. Pour tenter de faire chuter Jésus, le diable révèle sa tactique. Clairement, le diable va essayer d'agir sur trois domaines. Le premier, c'est le physique, le matériel. En l'occurrence, Jésus est tiraillé par la faim et il va chercher à le pousser à manger. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » J'ai cherché combien de temps un homme pouvait tenir sans rien manger. Alors, les informations que j'ai trouvées, que je n'ai pas eu le temps de valider avec mes frères médecins ici présents, c'est de l'ordre de 30 jours. Mais l'observation de grévistes de la faim a permis de constater des temps beaucoup plus longs, de 40 à 60 jours, à condition de boire régulièrement. C'est donc physiologiquement possible, mais pour autant, on peut imaginer dans quel état de faiblesse était Jésus à la fin de son jeûne. La deuxième faille que le diable va essayer d'exploiter, c'est l'orgueil naturel des hommes, orgueil terrestre ou même orgueil spirituel. Si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu, prouve-le-moi. Moi, je crois que tu es un imposteur. Es-tu vraiment sûr d'être celui que tu prétends être ? Instiller le doute, cette technique avait fait merveille avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » dit-on dans Genèse 3. Satan va donc essayer d'agir à la fois sur l'état de faiblesse physique de Jésus, tout en le provoquant quant à son identité. Le dernier domaine qu'il va essayer d'exploiter, très lié également à l'orgueil, c'est l'idolâtrie du pouvoir. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Il n'y a pas qu'une forme de pouvoir, elle peut être politique, par les mandats auxquels vous avez été élus. Elle peut être Le pouvoir peut être professionnel par le réseau que vous avez tissé ou par l'autorité que vous exercez sur vos salariés. Il peut être ecclésial, enfin, lorsque vous prenez une fonction de pasteur ou d'ancien dans une église. C'est un exemple. Tous ces pouvoirs ne sont pas de mauvaises choses en soi. On a tous besoin de cadres, on a tous besoin de guides, d'aide pour nous conduire. Mais le risque inhérent à tous ces pouvoirs, c'est la fascination qu'ils peuvent exercer sur ceux qui les détiennent. Jésus est le Messie. Selon les Écritures, il doit libérer le peuple, il doit devenir le roi des Juifs. Il pourrait légitimement prétendre à ce pouvoir. C'est ce que lui offre Satan, mais sous condition. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus résiste. Pour se défendre, il déploie l'arme spirituelle par excellence, la parole. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. La parole est puissante. Elle est le meilleur rempart face à la tentation. Pour autant, les plus grands truands sont défendus par les meilleurs avocats qui sont des experts de la loi. Satan est un expert de la parole. Il est lui aussi capable de la citer, de la déformer pour faussement justifier un acte. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. En citant le psaume 91, à nouveau, Satan cherche à déstabiliser Jésus. Prouve-moi qui tu es, prouve-moi que l'Écriture est vraie. Et ici, il justifie cet acte en détournant le sens de l'Écriture. En effet, le psaume 91 montre la protection de l'Éternel pour ses enfants, mais en aucun cas n'incite à susciter la protection divine pour un acte irréfléchi ou dangereux. Là encore, Jésus ne tombe pas dans le piège et se défend par l'Écriture. Il est dit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu » Deutéronome 6. Physique et matériel, orgueil et doute, idolâtrie du pouvoir, Satan va déployer toute sa panoplie de professionnels de la tentation pour faire tomber Jésus. Mais on peut se demander pourquoi Jésus doit-il nécessairement passer par cette épreuve ? Pourquoi Jésus doit-il être tenté ? Donc après avoir détaillé cette attaque du diable, décrypté quelque peu sa tactique, essayons d'entrer plus profondément dans le texte. Tout d'abord, pour répondre à pourquoi Jésus devait-il être tenté, il faut acter que la tentation fait partie de la vie et que, en tant qu'homme, il devait la connaître. Mais la deuxième raison la plus importante est que Jésus est héritier d'Adam. Il doit réparer la faute commise par lui. Il doit réussir là où il a échoué. Et cette victoire, une fois acquise, le sera au nom de tous les hommes. Intéressons-nous au symbole que porte cette scène de la vie de Jésus. Elle est tellement chargée de symboles que certaines sectes très anciennes n'y voyaient là qu'une parabole. Non, cette scène est bien un épisode réel de la vie de Jésus, mais oui, elle est chargée de symboles. Cette scène est comme un miroir de l'échec des hommes face à la tentation, là où Adam et Ève avaient échoué à obéir. Jésus, lui, parvient à rester fidèle. Ces 40 jours dans le désert sont aussi le miroir des 40 ans d'exil, d'exode du peuple juif. Après une manifestation éclatante de la puissance de Dieu qui a ouvert la mer devant son peuple élu, ils ont échoué à lui rester fidèles. Après une manifestation éclatante de l'Esprit Saint au baptême de Jésus, lui réussit à rester obéissant au Père. Il est venu pour racheter les défaites passées. On note que Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour y être tenté. Pas par lui, Dieu ne tente pas, mais cette épreuve par laquelle doit passer Jésus en tant qu'homme est bien une épreuve voulue par Dieu. Être soumis à Dieu ne signifie pas et n'a jamais signifié se mettre à l'abri des épreuves. Les épreuves que nous traversons peuvent avoir deux origines. Soit elles sont les conséquences d'un mauvais choix, soit elles sont voulues par Dieu pour nous donner l'occasion de nous confier pleinement en lui. Et c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Cette épreuve infligée à Jésus est voulue pour qu'il puisse manifester dans son humanité sa solidarité avec ses frères. Qu'il puisse, en tant qu'homme, expérimenter pleinement la confiance de Dieu dans l'épreuve. Attachons-nous maintenant aux échanges entre Jésus et Satan. Dans un premier temps, au moment choisi par le diable, effectivement, il choisit un moment de faiblesse physique extrême de Jésus. Mais si on prend un peu de recul, c'est un moment où Jésus est spirituellement fort. C'est juste après son baptême. J'en reviens à ma question de départ. Lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle phase dans notre vie, comment nous préparer aux épreuves, aux tentations qui nous attendent? L'objectif poursuivi par le diable ici, c'est de faire tomber Jésus au début de son ministère, avant qu'il ait fait des disciples, avant qu'il ait pu proclamer l'Évangile. La tentation arrive souvent après un moment fort. Pour Jésus, c'est après son baptême. Dans Rois 19, on voit un Élie en proie au doute, en fuite, demandant même à Dieu de lui prendre la vie alors qu'il vient de remporter une victoire éclatante sur les prêtres de Baal, au nom du Seigneur. Dans Juges, on voit un Gédéon qui combat les armées ennemies d'Israël, remporte des victoires extraordinaires et sombre dans l'idolâtrie. Mais Jésus, contrairement à eux, contrairement à ces héros de la foi, parce que ce sont des héros de la foi, malgré leur faiblesse, Jésus, lui, ne cède pas. Nous l'avons vu, la principale attaque de Satan va se centrer sur le statut même de Jésus. Ainsi est le doute sur qui il est vraiment. Ainsi est le doute sur le fait qu'il soit le Messie, le provoquer pour qu'il prouve qu'il est le Fils de Dieu. Ça me fait penser aux discussions que j'ai pu avoir avec les témoins de Jéhovah. Pour eux, Christ est le Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Et comme l'Écriture affirme la divinité de Christ, leur version de la Bible est légèrement modifiée. C'est le cas, par exemple, pour Jean 1. Il était avec Dieu, il était Dieu. Chez eux, c'est « il était un Dieu ». La modification est légère, mais elle est suffisante pour eux les convaincre. Et pour un chrétien qui engagerait la conversation avec eux et qui ne connaîtrait pas parfaitement l'Écriture, de douter. Engager une discussion avec eux sur ce point peut être particulièrement risqué, car ils sont convaincus de cette affirmation et déploient de nombreux arguments. Et par leur discours, Satan peut instiller le doute à un chrétien qui n'est pas bien préparé. Voyant qu'il n'arrive pas à faire plier Jésus, Satan va tendre un autre piège. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Satan prétend ici qu'il est le maître du monde, que c'est lui qui dirige les choses et que de ce fait, il a le pouvoir de rendre Christ plus grand. Et il y a une part de vérité. Dans l'Écriture, Jean appelle Satan « prince de ce monde » en Jean 12 et Jean 16. Cela veut dire qu'il y a assurément un pouvoir. Satan peut agir dans ce monde. On voit tout ce qu'il est capable de déployer comme malheur dans le livre de Job pour faire tomber un fidèle serviteur de Dieu. En tendant ce piège, Satan espère provoquer le débat, développer ses arguments. Mais un prince n'est pas un roi. Jésus le sait. Il refuse d'entrer en débat avec lui sur ce point. Échec à nouveau de la tactique du diable. Refus de céder à la tentation de l'orgueil, refus de débattre sur le pouvoir réel de Satan. Jésus tient bon et pour cela il dévoile la meilleure arme, la parole. Lorsqu'il lui promet de lui donner du pouvoir, il répond par la parole. Lorsqu'il cherche à lui faire rompre son jeûne, il répond par la parole. Et même lorsque Satan cite la parole pour l'encourager à désobéir, Christ s'appuie sur elle pour lui répondre. Ainsi, Christ remporte une victoire majeure face aux malins. Certes, ce n'est pas la dernière victoire qu'il remportera, et il devra à nouveau l'affronter. Mais cette victoire constitue le point de départ de son ministère et ouvre pour nous une vie différente. Il nous offre, à ceux qui placent leur foi en lui, sa présence pour permettre de traverser les épreuves. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors, après nous être attachés à décrire cet événement, après en avoir décrit ses implications, j'en reviens à ma question. Lorsque Dieu nous appelle à faire un pas de plus avec lui, comment nous préparer aux épreuves et aux tentations à venir ? Jésus, par cette épreuve, nous donne l'exemple à suivre. Même s'il est difficile de comparer cette épreuve à ce que nous vivons, à nos propres combats, il est et restera l'exemple à suivre. Cette épreuve, c'est l'image de la victoire remportée. Nous serions incapables de remporter nous-mêmes cette victoire. Nous serions incapables de la reproduire, mais elle doit pour nous être une source d'inspiration. Jésus, par son exemple, nous incite à une résistance persévérante, montre que la pratique positive de la parole et de la prière sont des instruments pour nous appuyer et que l'humilité est la voie qui permet de faire face à la tentation. Ainsi, nous savons par ce texte que c'est lorsque nous cherchons à nous approcher de Dieu que précisément la pression de la tentation se fait plus forte. Nous ne pouvons pas échapper à cet état de fait. Mais, le sachant, nous pouvons nous y préparer. L'épreuve ne sera pas moins grande, mais nous serons plus forts pour y faire face. Une des grandes difficultés à laquelle nous sommes confrontés tous les jours est d'arriver à discerner la volonté de Dieu. Ce que nous sommes tentés de faire n'est pas toujours mauvais en soi. Par exemple, dans ce texte, le fait de changer une pierre en pain ne semble pas poser de problème particulier. Mais le péché réside, la plupart du temps, dans la motivation de l'acte. Prendre un raccourci, rechercher le bien à court terme au détriment du bien à long terme. Un acte peut être juste en soi, mais la motivation ou le moment peuvent être mauvais. Recherchons dans les grandes décisions si c'est l'œuvre de l'esprit, du plan de Dieu qui se manifeste, ou si nous subissons une attaque. Un autre enseignement que je tire de ce texte est qu'il est impératif de rester sur nos gardes, de rester mobilisés pour le Seigneur en temps de difficultés, mais aussi en temps de victoire. Sommes-nous aussi prompts à attribuer les victoires au Seigneur que les défaites ? Sommes-nous suffisamment reconnaissants pour les projets qui aboutissent ? Lundi dernier, personnellement, j'ai dû affronter une épreuve. J'étais aux obsèques de ma grand-mère. Étant le seul chrétien de la famille, en dehors de ma grand-mère elle-même, le diacre de mon village m'a demandé si je pouvais prendre en charge une partie de la cérémonie, et en particulier l'homélie sur le texte de l'Évangile. Alors, accablé de chagrin, il me demandait de parler de Christ devant toute ma famille. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne la force, pour qu'il me donne les mots dans les quelques heures que j'ai eues pour préparer. Surtout qu'il me soutienne pour que je ne m'effondre pas pendant la messe. Eh bien, le Seigneur m'a exaucé. Chaque instant, il était présent à côté de moi. J'ai senti sa présence bénissante à mes côtés et j'ai pu passer cette épreuve. Quel soulagement ! Mais il y a une chose que j'ai failli oublier, c'est rendre grâce pour sa présence à mes côtés, rendre grâce pour son soutien. Être soumis à Dieu, c'est en chaque instant et pour tous les aspects de notre vie. Et oui, nous devons accepter que se laisser conduire par l'Esprit de Dieu n'est pas nécessairement pour se mettre à l'abri. Se laisser conduire, c'est peut-être éviter de nombreux obstacles. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige vers une eau paisible, lit-on dans le psaume 23. Mais dans ce même psaume, on lit également que se laisser conduire, c'est aussi
se préparer à cheminer dans la sombre vallée de la mort. Par cet exemple, Jésus nous montre que la lecture de la parole, la prière accompagnée par le jeûne, sont des instruments pour lutter contre les tentations. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. La parole est une arme puissante. La parole est la seule arme vraiment efficace pour résister aux malins, résister aux tentations. Mais comme pour toute arme, il y a des conditions. Et la première est de ne pas négliger l'entraînement à son usage. Croyez-vous vraiment que Ludo le Fou ait pu réussir son exploit sportif sans un entraînement de plusieurs années? L'entraînement à la parole, lire et méditer la Bible, est le travail d'une vie entière, par des lectures bibliques, par des participations à des études, par une lecture quotidienne, par des lectures par ailleurs. Toutes ces occasions sont des possibilités pour renforcer notre connaissance de la parole et en même temps nous renforcer pour résister aux tentations. Et nous devons être prudents. Le diable la connaît lui aussi. Pour lui, rien n'est sacré. Il peut la déformer. De même, l'homme peut manipuler le texte biblique pour se justifier et laisser ainsi une faille au diable pour s'y insinuer. Souvent, cette manipulation n'est pas consciente. Souvent, cela part d'une réflexion légitime. Mais nous sommes souvent tentés de justifier un acte, une pensée, parce que nous croyons savoir du texte. Mais avons-nous vérifié? Avons-nous bien compris le contexte du verset sur lequel nous nous appuyons? Enfin, il y a les zones d'ombre, où plusieurs interprétations sont possibles. Lorsque j'avais animé une étude biblique avec Jeff sur la Genèse, il avait pris une image que j'avais beaucoup aimée, et donc je la reprends ici. La parole est comme un lac dans lequel nous souhaiterions nager. Il y a des endroits où l'eau est limpide. On peut nager dans cette eau sans la moindre difficulté ni le moindre risque. Dans ces eaux, il y a le salut en Jésus-Christ, il y a la résurrection, il y a la promesse de la vie éternelle. Personne ne peut contester ces points inscrits dans la parole. Mais il y a des endroits où l'eau est plus trouble, où la nage est plus difficile, plus risquée. J'entends par là des sujets qui peuvent être profonds ou plus légers, où plusieurs interprétations sont possibles et que des débats entre nous peuvent s'engager. Qui était vraiment Adam? En combien de temps la terre a-t-elle été créée? Les femmes peuvent-elles prêcher? Les tatouages sont-ils agréés par Dieu? Très récemment, à Équilibre, une femme m'a demandé si j'avais des ouvrages sur le naturisme, parce qu'elle avait la conviction que c'était contraire à la volonté de Dieu. Alors, je dois avouer que sur ce thème, je n'avais aucune idée. Je ne m'étais jamais posé la question, d'autant que sur la plage, j'ai tendance à rester en jean et t-shirt. Mais, effectivement, je n'ai trouvé aucun texte, aucun livre traitant de ce sujet. Si ces divergences et ces débats peuvent être intéressants pour notre édification personnelle, nous devons nous montrer très prudents et surtout les mener avec l'amour de notre prochain. Car c'est dans ces discussions, dans les failles, dans les doutes qu'elles peuvent faire naître, que Satan peut s'insinuer, voire même dans les conflits qu'elles peuvent générer. Enfin, nous ne devons jamais perdre de vue que, aussi intéressante, aussi enrichissante que puisse être l'étude de la parole, il est fondamentalement toujours plus important d'obéir à la parole que d'en citer un verset. En conclusion, nous comprenons à quel point Jésus-Christ est grand par cette épreuve. Dans son humanité, il a dû faire face à la tentation. Jésus a été attaqué dans sa chair. Jésus a été attaqué dans son identité, Jésus a été attaqué dans son ministère, mais il a tenu. Là où Adam a échoué, Il a remporté la victoire. Là où le peuple de Dieu a échoué, il est resté fidèle au Père. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'en cette rentrée, le Seigneur vous appelle à faire un pas de plus avec lui. Un pas de plus pour revenir dans cette Église, si vous y êtes pour la première fois. Un pas de plus pour intégrer une étude de quartier. Un pas de plus vers les eaux du baptême. Un pas de plus pour prendre un ministère dans cette Église. Mon frère, ma sœur, ne résiste pas. Soyons à l'écoute des sollicitations du Seigneur et accueillons ces sollicitations avec joie. Mais préparons-nous, car la tentation ne nous sera pas épargnée. Préparons-nous dans la prière, méditons la parole de Dieu et soyons absolument assurés du plein soutien de notre Seigneur Jésus-Christ en la présence de son Esprit Saint pour affronter les épreuves, résister à la tentation et s'inscrire dans le merveilleux plan que le Père a dessiné pour nous. À lui soit la gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, par ton exemple, tu nous montres la résistance à la tentation. Tu nous montres que la parole est l'arme ultime contre le malin. Seigneur, nous devons nous préparer aux épreuves. Seigneur, nous devons nous préparer à la tentation. C'est en méditant ta parole que nous pouvons résister à la tentation. Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, ta parole est juste. Seigneur, tu es là pour nous soutenir face aux tentations, pour nous soutenir face aux épreuves. Seigneur, tu es un grand Dieu. Je veux te bénir, je veux te remercier, je veux rendre grâce pour ton soutien de tous les jours dans ma vie et dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, pour nous promettre une vie éternelle à tes côtés. Et ça, c'est une vérité qui est affirmée dans ta parole. Dans ton nom sacré, Jésus. Amen.